commencement était Marco, de beaux yeux bleus bleus d'amoureux qui la regardent, ne regardent qu'elle. On est à l'école maternelle, au bac à sable tous les deux. Ils aiment tant sentir sous leurs doigts la douceur du grain qui s'en va. Mais elle aussi, elle a des doigts, et longs, et fins, et prodigieux. Il tape, voltige sur le clavier, et dans son ventre, c'est le feu. La prof de piano la fascine, et ses épaules, et ses cheveux. Oui, mais après, il y a eu Pierre, c'était à l'entrée en primaire. Début des fêtes d'anniversaire, il l'a fait danser et tourner, et elle sent son cœur chavirer. Pour des sirènes, des magiciennes, des amazones, toutes nues qu'elle dessine sur des bouts de papier. Ses héroïnes sont des guerrières, aventurières, chevelues, peuple des rêves échevelés, qui l'emmènent vers le portail vert de l'école. Il l'attend devant, un vrai gentil, ce Jonathan. Impatiente de le retrouver, elle court, elle vole et elle la voit. Sa veste en jean, ses compensés, sourcils épais, Diane était là. Sur son chemin, plus grande qu'elle, elle lui apprend à colorier. Ouais, mais sans dépasser les traits. Diane était belle, Diane n'est plus là. Arrive Renaud, premier baiser, elle a 12 ou 13 ans je crois, le teint mat, les cheveux bouclés, il l'embrasse et elle aime ça. Oui mais la voilà au lycée, et là il y a Claire, pourquoi se priver? Elles ont tellement à se donner, le désir et puis le plaisir, l'aventure et puis l'amitié, pourquoi choisir, pourquoi se couper d'une moitié de l'humanité quand on peut toute la goûter? Mais enfin parce que c'est comme ça, tu as des cadres, tu as des lois, ma belle, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Eh oh, tu vas grandir un peu, t'es pas d'accord? Tant pis pour toi, bisexuel, ça n'existe pas.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Il m'arrive de lire ou d'entendre parler de bisexuels authentiques. Et je ne peux pas y croire. J'ai le sentiment commun. À la majorité des lesbiennes et gays, que c'est de la frime et une trahison politique.
Ah oui, donc carrément, hein, de la frime et une trahison politique. Christine Delphi, l'une des fondatrices du MLF, dans le documentaire « Thank God I'm a lesbian », Dieu merci, je suis lesbienne. Mathilde Ramadier, bonsoir.
Bonsoir.
C'est dans votre biographie affective que je viens allègrement de piller, dans votre livre aussi, « Vivre fluide », on va en parler. Est-ce que vous diriez, vous, « Thank God, je suis bisexuelle ».
Je ne l'ai jamais vraiment pensé. Ça a toujours été en moi. Ça a toujours été quelque chose que je suis venue fouiller avec ce livre. En introduction, vous aviez dit, oui, pourquoi se priver de la moitié du monde? Et moi, je dirais, pourquoi se priver de la moitié de soi? Je pense qu'on l'est tous psychiquement, déjà. Alors, ça, c'est Freud qui l'a dit il y a 120 ans. Et je pense qu'on a tous en soi des principes masculins, féminins qui cohabitent et qu'on peut, au gré de la vie, de nos expériences, s'explorer.
Sauf que très longtemps, à l'instar de Christine Delphi, on l'a nié. Cette possibilité-là, la bisexualité, était transitoire, n'était pas un état, était un nié, une espèce de compromis un peu tiédasse.
Oui, un hiatus dans l'histoire de la sexualité humaine et surtout féminine. C'est l'histoire d'un grand flou artistique. C'est très récent qu'on la considère comme une orientation. Et encore aujourd'hui, le stéréotype numéro un, c'est que ça n'existe pas, que c'est un état transitoire un peu étrange. Au 19e, c'était confondu avec l'hermaphrodisme, l'intersexuation, plein d'autres choses. Et c'est vrai que bon, il est toujours plus facile de qualifier ce qui est différent de soi que ce qu'on pense être la norme. Mais je pense en réalité que cette bisexualité est très plurielle et bien plus répandue que l'hétérosexualité.
Vous êtes journaliste, chroniqueuse, autrice, scénariste de bande dessinée, animée par quelques obsessions comme l'écologie, le féminisme, le monde du travail et la psychanalyse, et parfois tout ça à la fois. Ouais, pourquoi s'interdire et encore une fois, pourquoi choisir? C'est plus joyeux quand tout se mêle, plus captivant, plus riche avec vous, en tout cas, de Vivre Fluide. Vivre Fluide, c'est le titre de votre dernier livret. Alors vous, qui aimez les mots, vous les choisissez avec soin. Pourquoi dites-vous fluide en titre et pas bisexuel ou pas pansexuel?
Pour ne pas enfermer dans une nouvelle catégorie, le terme de bisexuel est peu utilisé par les générations les plus jeunes, qui vont parler plutôt de pansexualité en utilisant un autre préfixe et une autre racine.
C'est-à-dire qu'on oublie complètement les catégories de genre, on est pansexuel.
On sort de la binarité.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que le terme de bisexuel entérine encore la binarité de genre. Et je dirais même aussi la polarisation entre hétéro et homo d'un côté. Or, on sait depuis une étude célèbre de 1953 qu'il y a plein de variations entre les deux, que c'est très vaste. Et c'est pour ça que j'ai préféré le terme de fluide, qui est beaucoup plus joli, je trouve. Il n'y a pas le mot sexuel dedans, c'est plus vaste et on peut se l'approprier à sa guise.
Votre livre, c'est un appel pour nous toutes, un appel à l'émancipation face à une norme hétérosexuelle qui nous étouffe, mais c'est aussi le récit d'une affirmation, affirmation de soi, de vous. Alors vous allez tout au fond de vous pour comprendre qui ou ce qui vous a fait tel que vous êtes aujourd'hui. Né, très exactement, le 17 décembre 1987 à la maternité de Valence, dans la Drôme. Vous voici un tout petit peu plus tard, mais pas tant que ça, dans ce studio 521 de la Maison de la Radio. Entre les deux, il y a vous. Entre nous deux, Mathilde, il y a ce miroir. Je vous le tends. Prenez le temps de vous regarder. Qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, je crois que je vois quelqu'un à qui je peux dire maintenant qu'on se connaît bien. Il y a quelques mystères qui apparaissent, mais je reconnais les signes sur ce visage. Je reconnais les signes de fatigue, je reconnais les petits doutes. Et puis des choses qui ne changent pas. Mon nez, par exemple, a peu changé. J'ai encore un nez un peu de bébé. Je vois la fatigue maternelle, je vois les signes du temps qui font s'affronter en moi aussi deux types de féminisme. Le féminisme un peu plus radical qui me dit « Non, ne te teins pas les cheveux, accepte qui tu es comme tu es. Ouais. » Et puis un féminisme un peu plus rouge à lèvres, hein, lipstick, ouais. Qui dit « Écoute, assume tes désirs jusqu'au bout. Ouais. » et l'important, c'est que tu te sentes bien.
Alors, il y a un détail qui ne rentre pas dans le miroir et qui pourtant vous a construite et a longtemps habité le regard des autres, c'est votre taille. Vous êtes très grande, vous faites plus d'un mètre 80, et ça depuis votre adolescence.
Oui, alors pour moi c'est finalement un sujet assez féministe, parce que cette grande taille, je l'ai toujours eue, donc ça a toujours été un objet de curiosité. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que ça a été discriminant pour moi, ce serait mentir, mais j'ai dépassé le mètre 80 à l'âge de 13 ans, à 14 ans j'avais atteint ma taille adulte, j'étais réglée, la puberté était là, et je pense que c'est un phénomène qui s'accroît, parce que les gens sont de plus en plus grands, il y a aussi des facteurs environnementaux qui font que la puberté se déclenche plus tôt. Mais en tant que fille aussi, ça nous propulse quand même dans l'âge adulte, avant qu'on soit prête. Et puis surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ça posait curieusement surtout problème aux hommes, cette taille. à l'adolescence et puis même à l'âge adulte, on m'a souvent dit « Écoute, c'est pas la peine de mettre des talons, c'est pas la peine d'en rajouter, reste à ta place. »
C'est ça, et domine pas et t'es à ta place.
Et ne prends pas la place des hommes. Donc je pense qu'il est surtout question de ça, et que la grande taille chez une femme nous ramène à un rapport au phallus, en quelque sorte, au pouvoir.
Alors, petite mais grande déjà, vous penchiez votre longue silhouette sur vos cahiers pour dessiner des diplodocus femelles avec d'immenses coups phalliques surmontés d'une tête de gland. Et puis des femmes préhistoriques en peau de bête et chevelues, des amazones toutes nues et des sirènes aux seins énormes et des sorcières chapeaux pointus en lévitation sur Saturne. Elles sont étranges, ces créatures, tout droit sorties de l'imaginaire d'une enfant qui aime pas les barrières. Qui sait que le sexe n'a pas de frontières? Oui, c'est l'ébauche d'un désir. Alors bientôt viendra le plaisir.
J'entre, ils me suivent calmement. S'il y en a un qui n'aime pas la ville ou la vie, change de département. On est sur des techniques pour tout chanter. On lance. En espérant tomber sur un numéro qui semble être le gagnant. Même quand je recule, ils vont de l'avant.
Scène de Yakuza Monster sur France Inter. Et c'est drôle parce que cette émission, au départ, je voulais l'appeler Jolis Monstres. Oui, moi j'aime bien les monstres, s'ils sont jolis, s'ils font pas peur, s'ils sont juste là pour nous rappeler que l'autre, le différent ou que l'ailleurs existe et que c'est pas mal, parfois, de faire un pas de côté, d'aller voir ce qui se passe et puis comment ça se passe et puis si le paysage n'est pas un peu plus surprenant quand on prend des routes de traverse. On en emprunte une avec vous ce soir, Mathilde Ramadier, en toute fluidité.
France Inter. En marge.
Et allez hop, on rembobine jusqu'à la toute fin des années 80. Vous venez de débarquer sur cette planète. Mathilde et vos valises, vous les posez dans une maison de vieille pierre en pleine campagne, quelque part entre Chabeuil et Crest, avec le massif du Vercors qui vous regarde. Et à part ça, elle a quel goût, l'enfance ?
L'enfance, elle est méridionale. C'est les portes de la Provence, c'est les champs de lavande, c'est le bruit de l'eau, des rivières qui coulent, la rivière Drôme, et les montagnes pas loin, les Alpes qui nous regardent et qui nous protègent.
Vous grandissez au milieu des animaux avec une prédilection pour les poules. La nuit, les chouettes font peur dans le jardin. Dehors, c'est le mistral qui souffle et puis le bruit de la fête foraine, les lumières des feux d'artifice et celles des autotamponneuses. Dedans, il y a le parquet qui grince et les vieilles pierres qui parlent. Dans le couloir, on entend Jean Ferrat chanter. On adore la chanson française chez vous et puis le jazz et France Inter.
Chers amis, bonjour! En 1693, pour la première fois, il est fait mention à Fos de la présence d'un maître d'école, choisi d'ailleurs par le curé, qui recherche avant tout
sourire, je vous entends
maître,
rire.
Un clerc sacristain.
Oui, oui, c'est très émouvant en réalité. C'est la bande-son de mon enfance aussi. En fait, j'ai pris conscience qu'il y avait souvent des choses à écouter à la maison. Alors déjà, une vieille maison fait du bruit. Une vieille maison à la campagne fait du bruit dehors, puisqu'on est entouré d'animaux, de tout un tas de sons qui sont pas effrayants pour un enfant qui a grandi avec. Et puis la musique, beaucoup, le piano, le jazz, la chanson française, et puis France Inter, qui rythme les journées d'école, le matin quand on part à l'école, le midi quand on revient manger à la maison, les ravioles, le plat local. Et puis le soir, évidemment, maman, les petits bateaux. Je pense que ça a joué dans mon appétit de connaître des choses différentes aussi.
Alors, si je m'en réfère au portrait robot type de l'auditeur et de l'auditrice d'Inter de ces années-là, je dirais que vos parents étaient plutôt enseignants, plutôt à gauche et plutôt athées, j'ai bon ?
Bingo !
C'est exactement ça ?
Absolument.
Pour le coup, je vous le dis, je ne le savais pas. Vous êtes fille de Christine, une littéraire, et de Michel, un scientifique. Vous grandissez entre ces deux pôles, de l'un à l'autre, vous allez sans que la route ne soit tracée. Enfin, il n'y a pas de religion, pas de dogme à la maison, mais on est quand même sur un schéma dont vous dites qu'il est hétéro par défaut.
Et oui, comme beaucoup d'autres. Il n'y a absolument pas d'homophobie dans ma famille, mais on était tous plutôt hétéros, puisque je ne vais rien vous apprendre en vous disant que c'est la norme dominante. Mais je crois en effet que c'est notamment ces pôles que m'ont transmis mes parents entre les sciences et la littérature m'ont permis aussi de m'orienter comme un pivot. Alors j'aimais les deux. J'aimais les deux pôles, j'ai construit le mien qui était un petit peu à cheval entre les deux, les arts notamment, que j'ai essayé de rationaliser en me dirigeant vers des métiers peut-être plus rationnels. Mais c'est aussi ce qui m'a donné cet appétit pour les chemins de traverse et me chercher, me trouver autrement.
Vous grandissez avec trois grands frères, trois frères aînés au-dessus de vous, beaucoup plus âgés que vous. Vous dites qu'ils sont vos premiers modèles masculins. Vous racontez cette scène sur la route de vacances, vous êtes à l'arrière de la 305 et votre plus jeune frère est avec un ami et il vous dit « Mathilde, c'est lequel le plus beau des deux ?»
Miroir,
vous écrivez et vous écrivez « Ça y est, le jeu de la séduction hétérosexuelle se met en place. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi le jeu ? C'est quoi les codes ? C'est quoi les schémas ?
J'ai retrouvé ce souvenir qui était à peine refoulé, en fait, et qui est un super souvenir de vacances et de complicité aussi. Quand je me suis demandé pour écrire ce livre, jusqu'où je pouvais remonter dans mon histoire pour trouver les premiers soubresauts du désir, ou du moins, parce qu'on peut peut-être pas parler de désir sexuel, mais les premières choses qui m'ont attirée chez un garçon, à quel moment des archétypes se sont mis en place. Et en effet, dans cet exemple-là, il y a plein de choses. Il y a la douceur de la séduction, il y a les premiers émois de l'adolescence pour eux, il y a...
Vous dites, les hommes proposent et moi je vais disposer. C'est-à-dire que ce qu'on comprend très vite, et là vous avez 5 ans, c'est que votre rôle c'est celui-là.
Mon rôle, c'est un peu le rôle aussi de... Je fais l'analogie avec Paris et la pomme de la discorde, hein, qui doit dire qui est la plus belle entre Hera, Athéna et la troisième, j'ai oublié qui c'est d'ailleurs. Mais...
Pas Déméter.
C'est Déméter, absolument. Merci. En effet, les hommes, même s'ils ne sont pas conquérants, vont être quand même dans une posture de proposition. Et la femme va attendre passivement, va devoir donner une réponse. Mais même, moi, on m'avait pas... Comment dire, j'avais rien demandé quand on m'a demandé ça. Et ça m'a mis quand même dans l'embarras. Parce que je devais n'en froisser aucun, ne pas juger. Puis plaire à mon tour. Plaire en étant gentille.
Et alors, cet implacable schéma, c'est comme ça que vous l'appelez, avec des rôles bien définis pour chacun. Vous en aurez la confirmation dès la maternelle, puis dès l'école primaire, avec Marco, Pierre, avec Jonathan, avec tous ceux que je citais au tout début de cette introduction. Alors, ce rôle-là, vous le jouez, oui et non. Oui, vous avez les cheveux longs, très longs, et puis des cœurs et des lapins sur les murs de votre chambre, mais vous avez aussi horreur des robes et préférez les pantalons parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, très vite, on vous la colle, l'étiquette de garçon manqué, un marquage doublement dévalorisant, dites-vous. En quoi ?
Oui, alors pas en ce qui m'a concerné moi, mais je trouve ce terme dévalorisant parce que ça suppose déjà qu'on ait quelque chose de manqué et donc de manquant. Et puis ça suppose en second que le modèle à atteindre serait absolument le modèle masculin. Je crois pas d'ailleurs que fille manquée soit aussi répandue à l'inverse, on le dit pas comme ça. Alors en l'occurrence, pour moi ça n'a pas trop été un problème puisque je jouais, je pense sans en avoir conscience évidemment, avec ces ambivalences, ces ambiguïtés. En effet, j'avais des codes féminins que j'avais moi-même choisis, hein, les cheveux longs, les tapisseries roses dans la chambre, mais aussi j'étais quand même une enfant sauvage de la campagne et je jouais dans le jardin. J'étais fascinée par les dinosaures. J'étais abonnée à un magazine dans les années 90 avec des posters géants. Donc voilà des codes qu'on attend plutôt des petits garçons. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que mes parents m'ont laissé faire et que j'ai pu naviguer comme ça
d'un pôle à l'autre
sans même m'en rendre compte.
C'est ça.
Ce qui n'a pas été source de conflit. J'ai eu cette chance.
Et pour autant, vous êtes dans les clous et plutôt bonne élève à l'école, quoiqu'un peu distraite. Mais vous suivez et vous aimez, vous vous intéressez et aux choses et aux gens, à votre prof de piano surtout. Anton Rubinstein au piano pour ce nocturne de Tchaïkovski. Mathilde Ramadier, on va le laisser courir le piano pour nous accompagner. Vous avez 5 ans à l'époque, elle, votre prof, elle en a 25. Chaque semaine, elle vient chez vous pour vous donner votre leçon avec ses doigts immenses, ses cheveux en cascade, ses boucles argentées. Dans vos yeux d'enfant, que représente-t-elle ? Et là, je vous vois lever grand haut les sourcils et je vois la petite étoile dans les yeux à l'évocation de ces séances hebdomadaires. Elle représente quoi ?
Un idéal. Alors pas forcément, pas uniquement un idéal de beauté, mais un idéal de sublimation. C'est-à-dire que j'ai découvert les arts et la musique en particulier, que je n'ai pas forcément continué à pratiquer d'ailleurs, mais je voyais comment pouvait être réuni dans une seule et même personne l'idéal de l'enfant que j'étais. C'est-à-dire... une jeune femme, grande, élégante, qui pratiquait sa passion, qui jouait du piano avec passion et beaucoup de délicatesse. Et aussi quelque chose que je ne pourrais jamais atteindre, puisque je n'aurais jamais pu être elle, mais elle me dépassait en tout. Alors, c'est pas un scoop, je pense qu'on a tous eu des modèles chez les professeurs, et d'ailleurs Simone de Beauvoir en parle beaucoup, elle l'a été elle-même pour des jeunes femmes. Je ne dirais pas que j'ai désiré cette prof de piano, mais elle a été placée sur un piédestal, je l'ai cristallisée, et elle a, en l'occurrence, en moi, cristallisé beaucoup d'autres choses qui, je crois, m'accompagnent encore aujourd'hui.
Un peu plus tard, il y aura Diane, la petite amie de votre frère, et les grandes sœurs de vos amis. Ici, un sourcil épais, là, un rire partout, l'audace, la liberté que vous enviez. Petite, vos héros sont surtout des héroïnes ?
Oui, des héroïnes puissantes, peut-être un peu marginales. Je repense effectivement à la figure de la sorcière. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi dans la Drôme, mais les sorcières m'ont pas trop fait peur dans les livres. Oui, des figures d'attachement et de fascination parce que se développait en elles et à travers elles quelque chose de mystérieux. Alors pas mystérieux pour envelopper encore une fois la femme sous une couche de mystère, etc., qui fait qu'on la comprend pas, mais mystérieux au sens de liberté. C'était des personnages qui osaient, qui faisaient des choses.
Oui, vous dites, vous avez toujours trouvé des femmes plus subtiles et plus complexes que les hommes qui risquaient
de
vous décevoir. Et ça, dès l'enfance, en fait.
Oui, je pense que je mettais la barre un peu plus haut, un peu plus haute avec les hommes. Par complexité, là aussi, je veux surtout pas tomber dans un écueil sexiste, en disant que les femmes sont difficiles à saisir, etc., et qu'elles jouent. Au contraire, j'avais l'impression qu'elles étaient plus subtil en intelligence aussi. Je repense à cette formule de la poétesse Louise Labbé qui disait que les femmes dépassent les hommes non seulement en amour mais en toutes les choses de la vie. Alors elle le dit bien mieux que ça. Mais il y avait cette notion aussi de subtilité intellectuelle, de capacité à inventer sa vie un petit peu plus, d'être moins, je pense, fixée sur des stéréotypes de
genre. Parce que tout est moins simple, parce que tout leur est moins donné, donc il faut un peu plus
il faut inventer des chemins de traverse.
Un peu plus se bagarrer, il faut un peu plus... Oui. Quand tout n'est pas acquis,
il faut
aussi plus créatif.
Peut-être inventer un peu plus.
Ouais.
Alors, avec les filles, comme avec les garçons, vous grandissez, et le son de votre adolescence, c'est les grillons dans les champs et le clap-clap des piscines au loin des tours qui s'effondrent un 11 septembre. Allez, tout près, les files d'attente devant une boîte de nuit et le diamant posé sur un disque vinyle, les premières rave parties, les après-midi entières chez le disquaire, vous vous rêvez dit DJ, vous aimez l'électro et elle, Björk, vous l'adorez.
Björk, absolument, parce que l'Islande aussi, parce qu'une nature absolument sublime à travers elle, dans ce pays lointain où je ne pensais jamais aller d'ailleurs, et puis surtout l'arrivée des musiques électroniques dans ma vie, l'arrivée de cette infinité des possibles dans le son, l'arrivée de la danse aussi, et puis du côté un petit peu provocateur. Alors moi, j'ai pas vraiment fait de rave parce que je suis née un peu trop tard, je suis née en 87, mais j'ai quand même connu des festivals et puis encore cet engouement, cet appel de la liberté qu'ont constitué ces musiques-là. Et cet album de Björk, Vespertine, sorti en 2001, mais aussi l'album Discovery des Daft Punk, c'était pour moi, en tant qu'ado qui n'avait à l'époque accès uniquement qu'à la pop et à la radio, j'avais pas internet encore au débit à la maison pour télécharger des choses, c'était pour moi la découverte d'un nouvel univers qui m'a aidé à me définir aussi.
Et puis c'est aussi le corps qui s'ébroue, c'est le corps qui vibre, c'est le corps qui exulte. Vous avez à ce moment-là 14 ans, vous êtes entré au collège et en même temps dans votre vie hétérosexuelle, premier amoureux, blond, bête et méchant, premier baiser un peu dégoûtant, bref, ça démarre assez mal. Pourquoi au fond ?
Parce que les premiers garçons dont j'ai été amoureuse au collège étaient malheureusement misogynes. Alors c'est un peu triste hein, d'être misogyne à 12 ans, à 13 ans, 14 ans. Et ça m'a pris des années pour le déconstruire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'hétérosexualité a gâché mon entrée dans l'amour. Comme pour beaucoup de
femmes,
je pense.
Comme pour beaucoup, parce que des garçons misogynes, s'ils le sont, c'est parce qu'il y a une culture qui est misogyne.
Je leur en veux même pas.
Dans laquelle on baigne.
Ils étaient gamins, mais ils étaient prisonniers aussi de ce schéma. Ils appliquaient ce qu'ils entendaient à la maison. Mais je me souviens d'une haine des filles hein, dans les couloirs. Et en même temps, c'était ce Graal.
Mais qui est alimenté, de toute façon, de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on dit à un garçon, faut pas jouer avec les filles. Ou... t'en approches pas trop, quoi.
Oui,
enfin, t'en
approches
pas trop, à part dans une approche de séduction.
Dont il faut sortir triomphant.
Ouais.
Donc quand on refusait les avances d'un garçon, on était tout de suite insulté. Je me souviens de le collège pour moi, c'était vraiment d'une grande cruauté, ouais.
Vous entrez au lycée, votre carton à dessin sous le bras, biberonné à la BD, vous êtes abonné à Beaux-Arts Magazine, vous savez artiste, vous rêvez artiste. Et tout à coup, voici Claire, comme vous, elle aime le dessin, comme vous, elle a le cheveu teint. Qu'est-ce qu'elle devient pour vous, Claire ?
Un pivot. Alors déjà, le pivot du passage d'un collège catholique à un lycée public dans la ville
section
où j'ai grandi,
oui.
Section art plastique.
Le grand écart doit être assez...
Avec un internat merci aussi, donc avec des gens qui venaient de loin,
ouais.
Des gens qui étaient déjà passionnés, qui voulaient étudier le cinéma, la musique ou les arts plastiques. Et ces rencontres, cette rencontre avec elles, ont été un nouveau pas vers l'âge adulte et un grand soulagement aussi. Je pense que
pourquoi
ça m'a... Parce que ça m'a permis de me sortir aussi de cette, je dirais aujourd'hui, de cette hétérosexualité imposée et toxique qui régit tous nos rapports, pas uniquement nos rapports amoureux, qui est un régime, comme le disait Monique Wittig. Et dans ce lycée, il y avait un nouveau vent de liberté. C'était de 2002 à 2005.
Et là non plus, vous mettez pas d'étiquette. C'est-à-dire qu'entre Claire et vous, c'est de l'amitié, c'est aussi du désir, c'est de la sexualité, c'est du plaisir. Mais vous n'êtes pas en couple. Vous ne vous affichez pas toutes les deux. Vous ne vous cachez pas non plus.
C'est de l'expérimentation. Ce sont des essais. Ce qui est là, encore une fois, très 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 courant à l'adolescence. Et en particulier chez les filles. Ça a été prouvé par des études, même déjà dans les années 50. Mais c'est un sujet qu'on a préféré ne pas voir. Parce que ça fait peur. Ça fait peur aux hommes.
Pour autant, les hommes, vous n'y renoncez pas non plus. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas, ah ben voilà, je suis lesbienne.
Non,
vous continuez à vivre cette double attirance, vous le dites de la façon la plus naturelle.
Évidente. C'est-à-dire au point de se dire vraiment, alors bon, ça paraît paradoxal parce que je viens d'y consacrer un livre, mais au point de se dire ce n'est même pas un sujet.
Alors, ça devient un sujet à partir du moment où vous arrivez à Paris, le bac en poche, et que vous mettez à fréquenter la communauté LGBT. Là, vous mettez un nom.
Non, toujours pas.
Toujours
pas. Que je suis, toujours pas.
Toujours pas.
Non, je fréquente la communauté LGBT et la plupart de mes amis proches sont gays parce que c'est plus intéressant avec eux, c'est plus ouvert. On a accès aussi à Paris à plus de choses que moi, venant de régions, je ne connaissais pas. Donc, quand on aimait la musique comme moi, et ben voilà, plus de sorties possibles, plus de lieux alternatifs. Et par ailleurs, je restais aussi dans les rails. Enfin, je veux dire, j'ai fait mes études, j'ai pas décroché de quoi que ce soit. Et j'ai pas envie de dire non plus que je jouais sur deux tableaux, parce qu'on en revient aussi à ce stéréotype de traîtrise, de lâcheté, de femme qui n'assume pas ce qu'elle est, et ce que reprochent beaucoup les lesbiennes aux femmes bisexuelles ou pansexuelles. Non, c'est une pluralité de choses, une multitude qui m'a constituée, avec laquelle j'ai joué, mais pas au sens de j'ai joué pour bluffer les autres. J'ai joué pour vivre au maximum.
En revanche, il y a un point sur lequel vous rejoignez Delphi et Wittig, à fréquenter cette communauté-là, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, c'est que vous comprenez à ce moment-là que l'intime est politique, que c'est plus une affaire individuelle d'un désir qui est là, qui se pose, qui se vit, mais que c'est plus vaste que ça et que ça a un sens politique.
Oui, alors je n'ai pas été militante et je me définis toujours pas comme militante. Je pense que je suis engagée, mais pas militante.
Quelle différence faites-vous ?
Peut-être la différence de terrain, je dirais, et le lien à la politique. Moi, j'estime que je me sens engagée parce que je défends des sujets auxquels je tiens dans mes livres et que être auteur, c'est pas tous les jours facile non plus. Donc, il faut aussi s'accrocher. Mais pour en revenir à cette époque à Paris, l'arrivée à Paris pour moi à 17 ans après le bac a été la continuité parfaite de ce que je voulais construire. C'était le lieu où je pouvais continuer à être ce que j'aspirais être. Et aussi vis-à-vis avec la communauté LGBT. Je pense même que mon féminisme est né d'abord de là. C'est d'abord parce que j'ai affirmé ma queerness, mon côté queer, que j'ai pris conscience ensuite, bien plus tard, que c'était aussi du féminisme.
Ce monde-là, le monde LGBT, vous l'aimez, la nuit, en boîte de nuit, vous mixez, et puis à l'aube, vous repartez, le métro, l'université, bruit du crayon sur le papier, et ça dure quelques années, avec des passages à Berlin, Berlin la fête, Berlin la nuit aussi, l'envie d'y passer toute votre vie. Mädchen Chablis von Spar, un groupe allemand de Cologne, très exactement, qui vous envoûte, Mathilde Ramadier, qui vous embarque, dites-vous. Mais où? Le Berlin de vos toutes premières années, quand vous y êtes arrivé au tournant des années 2010, c'était quoi?
Berlin, c'était encore plus que ce que Paris aurait pu m'apporter. C'était les nuits sans fin, c'était aussi l'illusion de la jeunesse qui s'arrête pas. Les nuits qui ne s'arrêtent pas. On découvre ça aussi quand on est jeune ou moins jeune, c'est qu'à Berlin, les clubs ne ferment pas. Alors moi, je n'y ai pas campé, hein, mais voilà, ça ouvre le vendredi soir, ça ferme le lundi midi. Donc il y a une impression de porte ouverte et qui ne se referme jamais. Et ça
une
se
liberté
ressent
absolue
et ça se ressent pour tout. Et ouais. Aussi pour les personnes queer, une liberté absolument extraordinaire, je pense, et pour les personnes trans aussi. Voilà, Berlin, c'était un cran au-dessus. Ça a été un vertige aussi, parce qu'il y a eu une part de mirage que j'ai raconté dans mes précédents ouvrages. Mirage économique, mirage de la culture aussi.
C'est vos premières années, c'est des petits boulots qui payent pas, les débuts de l'écriture qui sont pas forcément aisés.
Oui.
C'est des années compliquées.
Ce sont des années compliquées, très formatrices aussi, que je me serais peut-être passé d'avoir vécu, mais qui ont aussi constitué ce que je suis aujourd'hui. Et oui, grande précarité économique à Berlin. Alors maintenant, en 2022, ça se sait un peu plus, mais il y a 10-12 ans, quand j'y étais, c'était encore le mirage. En plus, le mirage technologique des startups, bon, c'est un autre sujet. mais pour moi, voilà, Berlin, c'était aussi cette ville de contraste. Ouais. Hein, les hivers qui n'en finissent pas, qui sont très rudes, hein, une ville très noire, peu éclairée la nuit. Mais du coup, une ville où on peut rêver beaucoup plus.
Depuis 10 ans, vous alternez moitié à Berlin pour la ville, pour la nuit, pour le bruit, moitié dans le sud de la France pour son soleil, sa poésie, fluidité, on vous dit. Vivre fluide quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité, c'est le titre de votre dernier essai, Mathilde Ramadier. Vous êtes sur France Inter, bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
En fait, je veux pas que cette émission soit filmée, parce qu'on est là pour se parler vrai, pas pour se regarder dans la caméra. Mais il y a juste un moment où j'aimerais que vous voyiez ce qui se passe, c'est le visage de nos invités. Quand ils écoutent ces chansons-là, comment ils voyagent dans leurs yeux, avec leur, même dans leurs épaules, dans le cou, tout son... Votre corps vit, vous emmène quelque part, et c'est assez fabuleux à observer. Donc j'ai vaguement l'impression d'être un poste d'observation privilégié, mais je vous laisse
parce
communiquer.
Parce que ce sont des surprises aussi, je ne savais pas que j'allais entendre ça. cette chanson me ramène aussi à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire... à la fois dans deux endroits et puis en même temps un petit peu nulle part. C'est ce qu'on vit quand on est parti loin de chez soi, qu'on est resté longtemps et puis qu'on revient et on devient un peu étranger à nous-mêmes. Et on retrouve une douceur et des choses qu'on aime des deux côtés, la ville, la campagne, l'Allemagne, la France en l'occurrence pour moi. Et on apprend à vivre dans ces petites brèches.
Vous citez Marlène Dietrich dans votre livre comme les quelques figures bisexuelles que l'on connaît ou que l'on devine. Il y en a si peu. Il y a comme un vide sur la question. Vous l'avez vécu comment, ce vide-là, quand vous entrez dans l'âge adulte, le fait que...
Pas de rôle modèle, en effet. Pas de...
Alors, ça fait flipper ou au contraire, est-ce que ça permet d'inventer?
Ça fait aussi, je pense, qu'on continue de se taire. Et puis, alors oui, on a l'impression qu'il y en a très peu, mais quand on fouille un peu, quand on se donne la peine d'écouter... de partir sur la piste de ces louves, de ces traces qu'elles ont laissées, on se rend compte qu'elles étaient très nombreuses. Et Marlène Dietrich, en l'occurrence, pour moi, c'était une surprise. Je ne savais pas, ou alors j'avais peut-être entendu des rumeurs qui existent aussi au sujet de Joséphine Baker, par exemple. Mais Marlène Dietrich faisait partie carrément d'un club à Hollywood qui s'appelait le club de couture.
On trouvait Greta Garbo, Jane Crawford, des femmes qui aimaient aussi.
Qui aimaient aussi les femmes, mais qui devaient se cacher en non-mixité. Il fallait surtout que ça reste sous le manteau, sous le couvercle, parce que Hollywood était déjà extrêmement normé. Il fallait donner l'exemple, donner des images de femmes lisses et absolument faites de la tête aux pieds pour les hommes. Et je me suis beaucoup amusée à retrouver des traces de femmes qui ont su expérimenter et donner libre cours à leurs désirs, à leurs aspirations, à leur créativité, au-delà de cette norme qui était imposée et tristement binaire.
Alors, vous avez une partie de votre livre qui s'appelle « Presque toutes », comme dans « Presque toutes bisexuelles ». Vous citez un certain nombre d'études, dont celle de l'IFOP. 18% des femmes sont attirées par une autre femme, 10% ont déjà eu une relation avec une autre femme, 3% se définissent comme bi. Seulement 3%, ça veut dire que du fantasme à la pratique, il y a un premier gap, et puis de la pratique à l'identité, encore un. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Un gap, un fossé d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de sauter, hein. Il n'y a aucune injonction, je pense, à développer, en tout cas ça viendra sûrement pas de ma part, mais oui, un fantasme, un désir n'est pas forcément mis en pratique, et cette mise en pratique ne conduit pas forcément à une habitude, qui elle ne conduit pas forcément à brandir un drapeau et se définir ainsi.
Mais il y a une gêne, il y a une honte, il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit.
En effet, quand on commence à interpréter ces chiffres, on peut se demander ce qui fait vraiment un chiffre si faible à la fin. Est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas se définir ou est-ce parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit? Vous avez cité cette étude, il y en a d'autres qui sont encore plus édifiantes côté américain, du côté des États-Unis, où là on passe carrément à 60% des femmes, toutes orientations sexuelles confondues, ont déjà éprouvé du désir pour une autre femme. 45% sont passés à l'acte avec un baiser. Mais là aussi, en ce qui est de l'orientation affichée, assumée ou choisie, du moins, le chiffre tombe très bas.
Alors avec vous, au contraire, pas de honte, pas de secret. Vous continuez à poursuivre votre route entre amitié, aventure ou histoire d'amour, qu'elle soit masculine ou féminine. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'un soir, 2009, dans un club à Paris, vous entendiez ceci. Mathilde Ramadier, nous dire ce que c'est. J'espère que vous n'allez pas vous planter parce que sinon vous aurez des problèmes à la maison.
Alors c'est le début d'un morceau, je suis assez émue, d'un morceau qui s'appelle, alors je crois que c'est Rayon Vert, hein, là je ne me plante pas.
Non c'est ça, c'est bon.
sur un album qui s'appelle Undone, d'un groupe qui s'appelle The Seasons, dont faisait partie Phil Stumpf, qui est aujourd'hui mon époux, avec qui j'ai deux enfants, parce que oui, je me suis quand même rangée avec le mariage, mais je le dis avec beaucoup de pincettes, et avec mon mari, c'est cette rencontre en 2009, et ce qui m'a attirée chez lui, notamment, c'est que c'est aussi quelqu'un qui aime les chemins de traverse et qui avait ce qu'on peut appeler une double vie, c'est-à-dire qu'il était anesthésiste le jour dans les hôpitaux de Paris et puis la nuit, il réveillait les gens dans les clubs. Il était DJ, producteur et programmateur de festivals, notamment dans ce club, le Nouveau Casino, rue Oberkampf, où nous nous sommes rencontrés.
Vous êtes ensemble depuis 13 ans maintenant, vous avez fondé une famille, vous êtes en couple monogame et pour autant vous dites toujours bisexuel ?
Oui, parce que ça a toujours été en moi et ça le sera toujours. Je ne veux pas justement dire que non, aujourd'hui je suis hétérosexuelle parce que je mène une vie qu'on attend d'une femme hétérosexuelle. Ça ne dit pas tout de moi. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y a toujours ces principes masculins et féminins et cette double attirance à l'œuvre en moi qui, si elle n'agit pas concrètement dans ma vie, agit ailleurs. Je suis quand même un petit peu freudienne malgré tout et je pense que ce qui fait notre libido est aussi sublimé dans la créativité et c'est ce qui m'a intéressée aussi dans ce livre, c'est de chercher comment les liens se tissent entre cette attirance pour plus d'un genre et cette explosion de créativité à certains moments dans la vie des femmes.
Alors, ce livre, là où il est extrêmement intéressant, c'est qu'il permet d'affiner et ô combien. Vous vous dites, moi, j'ai toujours eu des histoires longues avec les hommes et plutôt des aventures avec les femmes. Donc vous vous définissez comme hétéro-romantique, mais aussitôt défini, vous cassez cette définition-là en nous rappelant que, en fait, parler d'orientation sexuelle, c'est déjà donner un axe qu'il faudrait suivre. Parler d'identité, ça fige. Encore vous, vous préférez parler de situation.
Oui.
C'est-à-dire, à l'instant T, je suis comme ça ?
À l'instant T, je suis comme ça. Et puis, c'est quelque chose dont on peut déplacer les curseurs au gré de nos envies, vraiment, mais au sens quasi existentiel, hein, c'est-à-dire que l'expérience va précéder l'essence, et que donc on a le droit de changer au cours de la vie. On peut se dire comme ci, comme ça à un moment, et puis pourquoi pas revenir plus tard. On ne cherche pas à rejoindre un ordre ou un parti politique. Et oui, situation, c'est ce qui me plaît le plus.
Alors vous continuez à chercher, pour le coup, ça, c'est votre ADN. Vous cherchez, vous écrivez sur la maternité, vous avez eu deux filles, et puis vous discutez avec votre éditrice, et puis vous vous demandez, est-ce que les femmes seraient plus fluides que les hommes avec un désir plus fluctuant? Vous cherchez des réponses en librairie, de quoi vous documenter, et la minceur, l'extrême maigreur même de la recherche sur le sujet vous fait dire que oui, il faut s'y atteler, que c'est même une urgence, d'où, quelques temps plus tard, votre livre, ce livre, Vivre fluide. Mais entre-temps, il y a eu MeToo, entre-temps, une nouvelle génération de jeunes femmes qui prennent la parole et qui disent, entre-temps, il y a eu Katy Perry. On est en 2017, elle reçoit le prix de l'égalité de la Human Rights Campaign à Los Angeles.
Je suis juste une chanteuse. Je parle de ma propre vie. Je parle de mes fantasmes dans mes petites chansons pop, par exemple I Kissed a Girl, et j'ai aimé ça. Que les choses soient claires, j'ai fait bien plus qu'embrasser une fille.
Hold up! What I did know is that I was curious.
J'étais curieuse, et je savais que ma sexualité n'était pas aussi noire et blanche que cette robe. Mais en 2008, quand cette chanson est sortie, je savais que j'avais commencé à dire quelque chose que beaucoup de gens dans le monde semblaient vouloir reprendre en cœur.
Ce discours a fait date, hein, c'est vrai.
Elle dit j'ai embrassé une fille et j'ai aimé ça. Et dans le discours, elle dit c'est plus qu'embrasser.
Oui. Voilà,
je résume.
Alors,
pour celles
et
ceux qui les écoutent.
Elle a fait son chemin et ça, c'est très bien qu'elle revienne à ce moment-là, au moment de ce discours, sur ce qu'elle a voulu faire avec cette chanson. Néanmoins, je lui en veux un petit peu quand
Pourquoi
même. Parce que dans le clip de cette chanson, notamment, il y a beaucoup de male gaze, il y a beaucoup de regards masculins encore. C'est une représentation de la bisexualité qui est très hétéronormée, qui est très sexualisée, qui est un peu crispante, je trouve.
C'est « je couche avec une femme pour te faire plaisir à toi, homme ».
Oui, alors là, en l'occurrence, c'est plus sibyllin que ça, mais on y voit des jeunes femmes qui font la fête, mais avec qui sont extrêmement jeunes, déjà, dans un univers très rose, avec des nounours, des peluches, des guitares roses, avec des paillettes. Et puis là, au milieu, on voit surgir des coulants résis, des stilettos. c'est quelque chose qu'on... Ce sont des représentations qu'on retrouve au cinéma et que je trouve extrêmement crispantes à bien des égards, et aussi parce qu'elles tendent à hypersexualiser ces femmes-là.
Vous, au contraire, vous affirmez haut et fort dans ce livre, de la première à la dernière page, et encore une fois, il est passionnant, que la bisexualité est une sexualité en soi et pas pour l'autre. C'est une affirmation de soi, dites-vous, une double émancipation vis-à-vis du patriarcat et vis-à-vis de l'homosexualité. Sans domination d'un genre sur l'autre, d'une sexualité sur l'autre, la bisexualité, écrivez-vous, c'est l'organisation psychique sans pouvoir, c'est le versant anarchiste de la sexualité. À la technique ce soir, Arnaud Cayet, Marianne Crimbaud réalise cette émission. Ophélie Vivier en assure la coordination et la programmation. Et ça, c'est une nouveauté. France Inter, Charlotte a digéré. Ceci n'est pas un cliché. When I woke up early this morning, I said, hey, Mr. DJ, ain't got no money. I throw my hands up in the air, and I wave them like I just don't care.
six, five, four, three, two, one, zero. Y'all cold as ice.
Ceci n'est pas un cliché, Charlotte Digéré. Vous avez aimé? Vous aimerez toute la playlist de Djoubaka que vous retrouverez évidemment sur franceinter.fr à la page de l'émission de la playlist. Hein, vous ne la retrouvez pas Djoubaka, enfin je me comprends.
En marge. Sur France Inter.
Cette émission, si elle existe, c'est parce qu'on aime au fond se raconter des histoires, hein, toutes et tous, et depuis la nuit des temps, c'est avec qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend avec nos héros, nos héroïnes, avec ce qu'ils traversent, avec ce qu'ils subliment, et que vous retrouvez, vous, ici, tous les samedis. Pour vous, Mathilde Ramadier, tout commençait donc dans la Drôme, on le disait, vous nous avez pas mal baladé, et puis ça y est, on les pose un petit peu, les valises, et la pause ou la fin pourrait sonner comme ça. C'était la fin de quelque chose. Ce serait la fin de quoi? Pourquoi elle vous évoque la fin, cette chanson-là?
Cette chanson, c'est la fin de l'été pour moi. C'est la découverte de ce groupe, Fruit Bats, en Californie, fin d'été 2016. Et pour moi, c'est aussi un peu le pinacle de l'insouciance. Et la fin de l'insouciance aussi. C'est le début de l'éco-anxiété.
Ouais.
C'est...
Vous avez cessé de voyager après, c'est ça?
Oui, alors...
Sur d'aussi longues distances.
Voilà, ouais. Ouais. C'est la prise en compte de la finitude. Et ouais. ce morceau m'inspire ça. En plus, le chanteur, au début, raconte qu'il est seul dans une ville fantôme. Ouais. Et en même temps, il y a cette joie, il y a cet entrain de quelque chose de chaud, de chaleureux, de très humain. Et cette époque-là, pour moi, c'est aussi le moment où je suis entrée dans la maternité, où le désir d'enfant est arrivé. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais je crois que c'est aussi quelque chose que beaucoup de parents ont ressenti. C'est avec, on donne la vie à un autre être, enfin on la transmet en tout cas, mais en même temps on prend conscience de la finitude. Enfin, on met au monde quelque chose qui a aussi un bouton off.
Ouais.
Et puis on se prend dans la gueule aussi le fait que la planète brûle et qu'il y a toutes ces choses. Donc oui, c'est ce mélange, encore une fois, c'est mon angoisse existentielle aussi, ce morceau. C'est à la fois, c'est ce besoin de tout consumer le plus vite possible au cas où ça s'arrête demain. Voilà, ce calme apparent que j'aime et en même temps un grand stress qui bouillonne et qui me fatigue. Mais j'aime ce mélange des deux.
Et alors vous, contre la finitude des choses, vous avez trouvé une parade, vous êtes un petit pousset, Mathilde Ramadier. Depuis que vous êtes née, vous amassez une feuille par-ci, un insecte par-là, vous collectionnez. Alors aujourd'hui, c'est des cailloux, des fossiles, des pierres précieuses. Vous l'avez maintenant, votre cabinet de curiosité. Mais si vous deviez partir à un moment, vous aussi, parce qu'il paraît qu'on est tous mortels, vaste blague, mais enfin, il semblerait que oui. L'objet que vous laisseriez derrière vous, celui qui vous raconterait qui laisserait la meilleure trace de vous, ce serait quoi?
Eh bien, c'est ouais. Cette petite tortue.
Alors montrez-moi. Attendez, je la prends.
2 centimètres de long, qui est une tortue en quartz rose, montée sur des petits pieds en laiton ou en cuivre, je ne sais pas exactement.
C'est très très joli.
Donc c'est pas un bijou, c'est une petite pierre sculptée.
Ça peut faire presse-papier, non? C'est trop léger.
Non, c'est trop léger. Ça sert vraiment à rien. C'est juste ce
mais
que
ça, c'est.
Mais
ça, c'est mon côté utilitaire. Moi, je suis sans poésie.
On
ne
peut pas
effrayant.
La porter. Et cette petite tortue, je l'ai avec moi depuis longtemps déjà. En fait, elle m'a été. Alors, c'est extrêmement personnel. Hein. Ouais. Elle m'a été offerte par ma première psy.
Ah oui.
À la fin de la dernière séance.
Ah bon, à la fin. C'est ouais. fini. Après, vous ne voyez ouais. plus.
On d'accord. a le droit. Alors bon, pour une dernière séance,
mais
on
moi,
a le droit
psy,
de se faire
rien
des cadeaux.
Pour ma dernière séance. Mais c'est dégueulasse.
Elle vous a dit au revoir. Mais...
Oui, mais sans cadeau.
Et cette petite tortue, pour moi, c'était mon petit baluchon pour la suite de ma vie. Et ça, voilà, c'était à la fois une sorte de talisman. C'était, je pense, du point de vue du psy, aussi une façon de remercier la patiente qui est venue déposer des choses sur le divan ou dans le canapé et puis donner autre chose en échange. Et puis le symbole de la tortue m'a plu parce que la tortue c'est un animal qui est lent mais qui finit par y arriver et puis qui porte sa maison sur ouais. son dos et c'est un petit peu ce que j'ai l'impression de faire. Ouais. Avec la connotation aussi, voilà, on porte notre maison sur notre dos, mais qu'est-ce qu'on porte aussi? Combien de névroses et combien de casseroles,
je vois pas
etc.
du tout ce que vous voulez dire.
Les mots de la fin, on va les laisser à Simone de Beauvoir. Ce sont ceux que vous avez choisis, ceux que vous pourriez aussi
oui.
emporter avec vous.
Dans
elle
l'au-delà.
Écrit, exactement, exactement. On pourrait même le graver sur une urne ou sur une tombe ou près d'un arbre, je ne sais pas. Hein, votre
près
dernier
d'un
endroit
arbre.
À vous. Elle écrit à l'écrivain américain Nelson. Et elle dit « Je veux tout de la vie, être une femme et aussi un homme, avoir beaucoup d'amis et aussi la solitude, travailler énormément, écrire des livres, ça vous va bien ?» Ça nous va bien aussi.
Merci.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Vivre fluide quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité. Votre dernier ouvrage est publié aux éditions du Faubourg. Merci infiniment,
Mathilde
Ramadier.
Merci beaucoup
d'être venue nous voir. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.